Vitreville PM. La voie est libre.
Alors, mon Luc, comment tu vas?
Bien, toi?
Ça va très bien.
T'es-tu ennuyé?
Ben écoute, moi, si j'ai pas ton radieux sourire devant moi, qu'est-ce que tu penses que je peux faire dans la vie? Je suis perdu, là.
Alors, ça
Alors,
va? Oui.
Tu nous parles de quoi? Ah, aussi, là, tu vas nous parler de Trump, là?
Encore un petit peu.
J'étais déjà de mauvaise humeur, là. Il va me racheter, là. Et vas-y.
Ben écoute, faut que je te dise en partant que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine devait arriver tôt ou tard. Elle est arrivée sous Trump, elle serait probablement arrivée sous Hillary Clinton, parce que là-dessus, sur le fond, pas sur la forme, mais sur le fond, Trump a raison. Tu peux pas avoir un déficit commercial dans les centaines de milliards de dollars par année pour toujours. C'est comme si tu demandes aux États-Unis de devenir la vache à lait de la Chine. Et la Chine a joué toutes les cartes qu'elle avait à sa disposition à travers le temps pour faire en sorte que ils font rien pour équilibrer leur devise, leur monnaie. Ils font rien pour se conduire comme les autres à l'Organisation mondiale du commerce. Ils font tout pour convaincre l'Organisation mondiale du commerce qu'il faut les traiter comme un pays en voie de développement. Et blablabla, et blablabla. Alors, Trump s'est lancé dans une guerre commerciale avec la Chine, qui n'est pas rien du tout, là. Et là, il y a eu une rue, il y a des négociations en marge de cela pour justement arriver avec un accord commercial acceptable. Et il y a eu une rupture assez brutale des négociations au mois de mai. Et là, ils viennent de recommencer, mais ça se passe à un super haut niveau. Ça se passe à Shanghai aujourd'hui. Mnuchin, le secrétaire au commerce, puis Lighthizer, le secrétaire aux relations commerciales, sont tous les deux sur place là-bas, et c'est le bras droit de Xi Jinping, le président de la Chine, qui est assis à table avec eux. Et il va se passer de quoi, où le ton va monter, où ça va devenir dangereux. Trump est convaincu qu'il les tient par l'eau, vous savez.
J'ai plutôt l'impression que ça ne bougera pas beaucoup, puis qu'il va y avoir une série de tweets disant quel point est brillant.
Ah oui, ça là-dessus, c'est assez prévisible comme comportement, j'avoue.
Tu vois, je suis expert en économie.
Et tu vois, mais même Trump, t'es expert en bon sens. Tu sais, le gros bon sens, on commence juste, à être habitué.
C'est la logique plate, là.
Ouais, c'est ça, c'est ton genre.
C'est mon genre.
Alors, tu vois, Trump a dit, je pense qu'à l'heure actuelle, ce que les Chinois font, c'est qu'ils jouent l'horloge. Ils se disent, il va être battu en 2020. Fait qu'on va le traîner, on va le traîner, on fait des petites concessions, on va ouvrir la porte, on va l'entrouvrir, on va la refermer, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, les Chinois, ils vont se faire prendre dans ce jeu-là de la façon suivante. Tout à coup, qui est réélu. À l'heure actuelle, Dan, vraiment, vraiment désolé de te le dire, je suis tout aussi désolé que toi, mais je pense qu'il va gagner. Là, hein?
Ça m'épouvante, mais je pense que ça ressemble à ça.
Ben là, il se maintient à 42-43% dans les sondages, en dépit de tout. Les démocrates tirent dans toutes les directions, puis il n'y a rien à faire. Ils ne seront jamais capables d'unifier suffisamment de gens pour aller battre Trump. Il y a le deuxième débat des démocrates qui a lieu ce soir. Joe Biden, qu'on voyait comme l'espèce de centriste modéré, la tête blanche qui peut calmer les choses et tout ça, Biden s'est fait... remettre à sa place par la sénatrice Kamala Harris lors du dernier débat.
Je m'en souviens. Puis, tu sais, coin centriste pour moi, c'est quelqu'un qui dit « je m'en mêle pas ».
Oui, c'est ça, en bonne partie. Ouais. Biden, tu comprends, il est l'archétype même de ce que les gens qui ont voté pour Trump voulaient rejeter. C'est-à-dire le classique politicien qui n'a jamais rien fait d'autre de sa vie que de la politique depuis 40 ans, qui vient généralement du nord-est des États-Unis, qui est beau parleur, qui sait faire des grands discours politiques, mais...
Et... C'est par cette classe-là que les Américains s'estimaient lésés.
Ouais, absolument. Ils disaient, ces gens-là, ils nous comprennent plus.
Ça.
Ils font de la politique pour eux-mêmes. Ils ont une vision qui est complètement déconnectée des gens. Ils sont surtout une petite clique qui viennent toutes des mêmes écoles puis qui se fréquentent toutes dans les mêmes clubs puis dans les mêmes ceci et cela. Et là-dessus, ils n'ont pas complètement tort. Mais quand les démocrates se tournent de bord, ils s'en vont chercher Joe Biden. Je pense pas qu'ils vont aller chercher ben des votes avec ça. Et quant à ses adversaires, Joe Biden...
Mais pourquoi est-ce qu'il est à ce point-là en tête?
Parce que c'est la faiblesse des autres. De deux choses. Deux choses. D'abord, il y en a une que c'est incontournable, c'est la notoriété. C'est lui qui a la plus haute notoriété de tous. Parce qu'il a été vice-président des États-Unis.
Ouais, c'est un peu de notoriété à Barack Obama, ça.
Oui, mais c'est quand même ça. Je veux dire, quand tu vois une photo, tu sais que c'est lui.
Ouais.
Quand tu vois une photo de Kamala Harris, tu ne sais pas encore complètement c'est qui. Puis quand tu vois Elizabeth Warren, c'est quelqu'un, Elizabeth Warren, qui est très connue dans certains milieux académiques. C'est une professeure de Harvard. Encore une fois, l'archétype de ce que les Américains ont rejeté. Et tu vois là où Trump joue ses cartes parfois de façon intelligente, crois-le ou non, dans cette affaire-là de la Chine. Là, les gens sont avec lui. Tu parles à des Américains, le sensé un peu, tu dis, mais pourquoi vous les bousculez comme ça? Ben parce qu'ils se payent notre gueule depuis 40 ans, ce qui n'est pas complètement faux.
C'est pas juste ça, c'est qu'avant des élections, en préparation d'élections, d'avoir là du tof qui tient face à la Chine, ça fait du bien beaucoup de monde, ça.
Ah oui, oui, tout à fait, t'as parfaitement raison
là-dessus. Quand je dis qu'il va tweeter, c'est pas juste une fois, là, ça va durer jusqu'aux élections.
La chicane de Huawei, là, qui a tant de conséquences pour nous au Canada, là, la compagnie de télécommunications chinoise, c'est Huawei qui vient d'admettre qu'il... Ils se battent pour leur survie. Le Trump leur a tellement serré les robinets puis a tellement mis de pression sur les alliés ou ex-alliés ou appelle-les comme tu veux des États-Unis.
Cette affaire-là, on a-tu hâte que ça fasse quelque chose? Parce que nous autres, on est une punaise pognant deux tigres.
Oui, oui, on est...
On n'a pas plus de force que ça, là.
Non, parce que la gaffe, on l'a faite au début. On n'aurait jamais dû embarquer là-dedans.
Il a fallu pas l'arrêter. Il a fallu
exactement.
La foutre la frontière. Retourne chez vous. Fais-toi arrêter ailleurs.
Il y a toutes sortes de méthodes qui étaient possibles. Il y en avait une, c'était par des services, comment dire, souterrains, genre services de renseignement, tu fais savoir à la Chine, dites-donc, madame, et c'est fait à Vancouver, on a un problème.
Mm-hmm.
Deuxième affaire, c'est, oups, on est arrivé en retard, on était déjà sorti. Il y en avait plein d'autres options, mais l'option d'exécuter un mandat du FBI... pour une extradition où on l'accuserait d'avoir été complice dans le contournement des sanctions commerciales contre l'Iran. Allô? C'est compliqué un peu, cette affaire-là.
Combien de temps ça va durer avant qu'il y ait...
Y si il finit, je peux avoir un accord. Pardon?
Est-ce qu'il va finir par une extradition? Je pense pas, moi.
Des années. Alors, il n'y en aura pas. En bout de ligne, ces négociations entre la Chine et les États-Unis... devront, d'une façon ou de l'autre, aboutir quelque part. Et je te garantis que quand ça va se régler, tout va se régler. Comme
je vais vous donner un conseil. Si vous voulez migrer au Canada puis qu'on ne vous écœure pas le restant de vos jours, là, faites comme madame. Insérez-vous dans une chicane qui va prendre deux siècles à régler. Restez là.
Alors, c'est ça. Alors là...
C'est menaçant. On a deux géants qui sont fâchés après nous autres. Là.
Ils sont tous les deux fâchés, puis aussi fâchés l'un que l'autre. Non, je dirais même que la Chine sont vraiment en colère contre le Canada. Vraiment en colère, parce que t'as beau écouter M. Trudeau, puis Mme Freeland, puis tout ça, puis nous avons une société de droit, puis il y a séparation des pouvoirs, ils disent, au moins, tu penses qu'on croit ça, nous autres? Es-tu vraiment sérieux? Penses-tu qu'on croit ça? Parce que la base des lois d'extradition est toujours la même. Ce sont des traités bilatéraux. C'est que, oui, je vais accepter de t'extrader aux États-Unis si tu me fais la preuve, toi, l'Américain, le demandeur, que le crime dont la personne est accusée est un crime également dans l'autre territoire. Tu vois ce que je veux dire? Or, essaie donc de démontrer que d'avoir contourné les sanctions commerciales contre l'Iran par des sociétés écrans basées aux îles Caïmans, essaie donc de démontrer...
Que c'est un crime ici, ça ne
l'est pas. C'est un crime ici, cette affaire-là. Tu sais bien que ça mène nulle part. Tu vois très bien que c'est un jeu politique. Fait quand... Moi, j'ai l'impression des fois que on rit de nous avec ces histoires-là. Moi, j'ai travaillé dans ces milieux-là. C'est pas vrai qu'elle s'est fait arrêter à Vancouver et que Trudeau en avait jamais entendu parler. Je ne le crois pas. Maintenant, il faut savoir aussi que les lois fédérales, et c'est un peu partout dans les démocraties comme ça, il y a une loi qui permet... de mentir sans que tu puisses être sanctionné, c'est la loi sur la sécurité nationale. T'es supposé, quand tu détiens un secret, de dire le contraire. S'il faut dire non quand c'est oui, tu dis non quand c'est oui, parce que c'est la seule loi qui te dit faut que tu mentes.
Bien, comme la différence entre une cour de justice et un policier a parfaitement le droit de mentir pendant un interrogatoire pour faire parler quelqu'un. Il a le droit de mentir, c'est parfaitement légal, mais pas en cours.
En cours, évidemment.
En cours, mais pendant l'interrogatoire, il peut faire croire n'importe quoi.
Alors, évidemment, l'actualité à l'heure actuelle n'est pas effervescente. On a beaucoup les yeux sur ce qui se passe en Chine, puis en toile de fond, tout ça, tu as des manifs qui se multiplient à Hong Kong, qui est un territoire chinois qui se veut semi-indépendant. Tu as des ventes d'armes à Taïwan, qui est l'autre grande réclamation de la Chine, qui dit « ça fait partie de mon territoire, tôt ou tard, je vais aller le chercher ». Alors, tu as toute cette espèce d'atmosphère très, très lourde. Et parallèlement à ça, comme si on se ferme les yeux sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, la Chine est en pleine expansion sur le plan international. Ils sont en train de mettre en œuvre un plan pour faire renaître ce qu'on appelle la route de la soie. C'est-à-dire que la différence avec autrefois, quand c'était des chameaux et tout...
Ça va être des bateaux, ils vont faire passer par le nord.
Il y a des bateaux, il y a des trains à grande vitesse, il y a des aéroports, il y a des ports maritimes. Écoute, ils sont en train d'abord de prendre le contrôle complet de l'Afrique. Ils sont en train de devenir l'incontournable et de recréer ce que les géopoliticiens ont toujours appelé l'Eurasie. On a toujours considéré que cette masse terrestre est comme découpée en deux. D'un côté que c'est l'Europe, puis là où est le Bosphore, à Istanbul, l'autre côté c'est l'Asie. La Chine dit « Ah, ceci est une fiction qui dure depuis très longtemps, on y met fin, nous sommes l'Eurasie. Et pour que ça devienne une réalité, on va relier les deux morceaux par des trains à grande vitesse, par des aéroports, par tout ce que tu peux imaginer d'infrastructures qui vont payer des pipelines. » T'aimes ça, des pipelines de Nadan, n'es-tu pas?
J'adore. Moi, ça m'en prend deux avant mon café de matin.
Mets-tu un peu de sucre?
Ah, toujours. Écoute, avec mon pétrole, écoute, pas de sucre, dégueulasse.
Et la Chine, pendant ce temps-là, est en train d'établir des bases militaires. Ils viennent d'en construire une à Djibouti, justement dans cette zone où ils veulent construire la route de la soie. Ils sont en train de... Ils ont maintenant leurs propres avions chasseurs fabriqués par eux-mêmes. Ils fabriquent leurs propres porte-avions. Ils investissent de façon massive parce que...
Ce sont des conquérants, mais ils ont compris que le chemin maintenant, c'était plus la bagarre avec des armées, c'était le commerce.
Mais c'est le commerce, puis c'est les liens, oui, les liens qui découlent du commerce, puis les infrastructures que nous obligent à avoir le commerce, puis... Alors,
c'est une force énorme.
Ils sont partout en Afrique. Ils sont en train d'acheter le continent. Il y a à l'heure actuelle 10 000 entreprises d'État chinoises qui ont un siège social africain. Ils sont dans tous les domaines, dans tout ce qui existe de ressources en Afrique. À l'heure actuelle, la France, quelqu'un qui allait en Afrique autrefois, tu voyais encore la présence française, un peu comme à l'époque coloniale. Ils sont en train d'être complètement marginalisés. Ce sont des Chinois qui sont partout. Pas fous, ils arrivent en même temps, puis ils leur construisent en même temps qu'ils vont chercher le minerai, puis les ressources naturelles qui les intéressent. Ils leur construisent des hôpitaux, ils leur construisent des écoles. C'est une autre forme de diplomatie. Mais donc, je comprends là, que Trump a un peu raison avec la Chine, mais d'un autre côté, on dirait qu'on oublie tout ce qui est vraiment en train de se passer. Trump a envoyé promener ses alliés depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest. Ils ont fini par aller se promener. Quand ça fait trois fois que je t'envoie promener, une troisième fois, peut-être tu vas partir.
Une marche.
Oui. T'as pris une marche. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis se promener. Et puis, quand ils reviendront, il va être trop tard parce qu'ils vont être maintenant liés avec la Chine par de nouveaux canaux de communication, de nouveaux canaux de transport. La Chine est maintenant devenue la machine industrielle du monde entier. Le rôle qui était celui des Américains autrefois, enfin, espérons que tout ça va bien finir, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça tourne mal.
Ou que ça tourne bien pour la Chine avec ses visées expansionnistes.
Oui, je parle de nous. Quand je dis que ça tourne mal, c'est vu de mon point de vue. Moi, je suis le voisin des Américains.
Oui, on n'est pas de grande puissance, nous.
Non, pas du tout.
Merci, mon Luc. Et de toute façon, je te dis merci pour quelques minutes. On parle de ton deuxième sujet tout de suite après la pause.